Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Le titre qui vient d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires est l'œuvre d'un bassiste, chanteur, chef d'orchestre et compositeur de grand talent que nous avions eu le bonheur de rencontrer pour la première fois en 1999. C'était donc il y a 23 ans et au fil des années, son insatiable créativité ne nous a jamais déçus. Sa musicalité s'est enrichie de nuances culturelles glanées en chemin, au contact d'artistes de tous horizons. Et il nous présente aujourd'hui un duo détonnant. Richard Bonnat, soyez le bienvenu.
Merci Joe Farmer, happy to be here.
Je parlais de duo détonnant en introduction de cette émission, car c'est l'immense Oumou Sangaré que vous avez convié au micro. Vous connaissez depuis longtemps ?
Oumou, depuis très longtemps, je connais la chanteuse, même si on n'a jamais collaboré bien avant, mais on se connaît depuis un moment. Je l'avais toujours sous le radar, je veux dire, en me disant un jour j'aimerais bien écrire une chanson qui irait à merveille à cette grande voix d'Afrique et du monde, et c'est ce que j'ai fait là.
Vous aviez déjà joué sur scène ensemble ?
Non, on n'a jamais joué sur scène. On a une bonne raison en tout cas, mais non.
Que veut dire Duru Wakani ?
Duru Wakani ici, c'est le Fadidi. Moi, je fais un retour en arrière en fait. C'est un Fadidi, c'est une langue nubienne qui était parlée entre 1300 et 1500 au nord du Soudan et au sud de l'Égypte. Donc, plus ou moins notre histoire à tous, quoi. Un peu. Donc, je remonte un peu le temps quand on célébrait les dieux vivants. Wakani, c'est un des dieux vivants, donc je célèbre en fait un dieu vivant, donc voilà.
La tonalité de ce titre Duru Wakani est très différente de tout ce que vous avez produit par le passé. Assiste-t-on à un virage stylistique de votre univers musical ?
Absolument, je dis souvent mon livre comporte 600 pages, j'en suis à la 41e page, donc et cette page-là sera une page qui sera agrémentée d'afrobeat, des courants musicaux qui sont actuels, afropop, donc voilà un peu la direction quoi. Et habitant à Miami où cette musique est tellement, tellement jouée, je me suis levé un matin et j'ai dit mais l'afrobeat, je prends un taxi, c'est l'afrobeat. Je vais dans un truc, c'est l'afrobeat. Je dis, mais tout le monde joue l'afrobeat, sauf le king de l'afrobeat. What is going on here? I'm like, parce que j'ai grandi avec cette musique. J'ai grandi en écoutant Fela. Au Cameroun, on ne pouvait pas y échapper. Donc, j'ai dit, mais and why not? pendant la période Covid, j'ai composé énormément. Je composais un morceau par jour. J'ai fait un contrat avec moi-même, parce que j'aime souvent me poser moi-même des questions et me parler très souvent. Et je me suis dit, hey, au lieu de me plaindre, je vais composer une chanson tous les jours.
Alors il y a Oumou Sangaré et vous sur ce titre d'Ouru Wakani. Puis il y a une troisième voix qui rappe.
Vous voyez,
quelle est cette voix?
Vous voyez que là, personne ne me reconnaît.
Non.
Je vous dis que c'est la métamorphose du ninja.
C'était vous?
Ah ben bien sûr, qui d'autre?
On s'est posé la question avec Nathalie Laporte, la réalisatrice de cette émission.
Ben j'ai plusieurs chapitres et plusieurs décodeurs du ninja dans l'histoire.
Alors là...
De la bonatologie.
Ce n'est pas la première fois que vous faites appel à une grande voix du Mali pour donner de l'éclat à vos compositions. On se souvient de Salif Keïta sur le titre Kalabankoro en 2003. Ouais. Êtes-vous, comme beaucoup d'entre nous, fasciné par la puissance expressive des chanteurs et chanteuses de ce pays d'Afrique de l'Ouest?
Bah, c'est pas juste l'expression, c'est une voix qui... C'est les voix de la terre, moi je dis, quoi. Elles sont tellement pures et vraies, quoi. Et bien imprégnées de l'Afrique. Quand on entend une voix malienne, t'entends l'Afrique. Il y a les voix indiennes, les voix africaines et les voix des gitans. Voilà trois voix en musique, quand elles se mettent, dès qu'elles engagent le turbo, là, c'est juste chaque note pèse 10 000 tonnes, quoi.
C'est la force des traditions.
Voilà. Et moi, je suis attaché donc à ces choses-là.
Richard Bonnat, je ne résiste pas à l'envie d'écouter Kalabankoro avec Salif Keïta, ça vous dit?
Avec plaisir.
Kalabankoro, Richard Bonnat et Salif Keïta sur l'album Mounia en 2003, qui est pour moi votre meilleur album, mais cela n'engage que moi, bien sûr, Richard Bonnat. Puisque nous en sommes à parler du passé, j'aimerais que nous prenions le temps de compter votre épopée. Vous avez souvent dit que le bassiste Jaco Pastorius a été votre source d'inspiration, mais avant de le découvrir, qui écoutiez-vous? Qui étaient vos modèles, vos chaperons?
Mes chaperons à l'époque, c'était les musiciens à l'époque de mon enfance, parce que je commençais à jouer tout petit, donc mon grand-père, ma mère, donc il faut pas oublier, j'étais entouré de chanteurs et de musiciens. Et ensuite, quand j'arrive en ville, donc c'est les orchestres de Makossa, je jouais pas encore de la basse. C'est là où les gens, ils oublient, je jouais pas encore de la basse. Moi, j'admirais les gens comme Tonton Neleyoum Emmanuel, qui jouait de la guitare et chantait, Manuel Guissot. Un jeune qui était, lui, jeune à l'époque, un peu plus âgé que moi, qui était terrible à la guitare, Guim Manulo. Tous ces guitaristes de cette époque, quand j'ai grandi à Douala, qui m'ont beaucoup influencé. Et aussi les bassistes à l'époque, je commence à jouer un peu de la basse, donc où Jaco commence à vraiment me toucher. Il y avait aussi des bassistes au Cameroun, tel Vicky Edimo, Alaji Touré, Jeanne O'Carl, beaucoup de bassistes, c'est une terre de bassistes. Toutes ces musiques m'ont beaucoup influencé à l'époque.
Qui est Messi Martin?
Ah ben voilà un autre, Messi Martin, un peu plus tard, là j'entre dans ma vie professionnelle maintenant, je vais dire, ou semi-professionnelle, parce que j'allais au collège Bénédicte, où lui-même, Messi Martin, était surveillant. Lui, il était tenu me surveiller à l'école, mais sauf que le même, celui qui me surveille dans la journée à l'école, est celui qui me fait jouer la nuit. Donc lorsque je dors à l'école, en fait, il prétend me punir, en fait, il comprend pourquoi. Je pionce tout le temps, parce qu'avec lui, on a fini à 4h du matin. Excellent, Messi Martin. Voilà un autre très grand joueur de Bikuti. À cette époque, vraiment, le Bikuti que moi, je préfère, je vais dire. Voilà.
À quel moment avez-vous su que la musique allait devenir le moteur de votre vie ?
Depuis ma tendre enfance, pour dire honnêtement.
Il n'y a pas un moment précis, un déclic, quelque chose ?
Un déclic ? Ça, c'est important, c'est une belle question. J'ai toujours su que j'allais être musicien. Je ne savais rien faire d'autre que la musique. Et non, les gens essayaient d'accrocher autre chose. Oh, comme il est talentueux en musique, il pourrait faire ça aussi. Non, je pense que la musique, je suis né avec ce don. Je n'ai pas forcément plus travaillé que beaucoup d'autres. Je suis travailleur, mais je pense à la base, j'avais quelques qualités. Aptitude, je pourrais dire, un peu plus élevée. Voilà, je comprenais vite. Parce que déjà, à gamin, lorsque je fabrique mon premier balafon, alors je n'ai jamais eu un instrument de ma vie. J'ai jamais eu une guitare, j'ai fabriqué mon premier balafon. Mon cerveau m'a plus ou moins instruit comment disposer mes notes. Et je les ai disposées comme sur un piano.
Vous saviez instinctivement ?
Instinctivement, comme par hasard, j'ai disposé mes notes, des basses à gauche et les aigus à droite. Et de manière chromatique. J'ai jamais joué d'instrument, j'ai jamais eu un instrument avant. Et lorsque le prêtre a fait venir un orgue pour la première fois à l'église au village, mais j'ai vu que ça coïncidait. Comme par hasard, j'ai fabriqué un instrument dans les normes. Voilà.
Quand vous êtes arrivé en France, vous avez joué avec Jacques Higelin, Didier Lockwood, Manu Dibango, Éric Lelanne, beaucoup d'autres. Est-ce que c'est un bon souvenir, cette période ? Je vous pose cette question parce que souvent, le rôle d'accompagnateur est mal vécu par les grands solistes.
Le rôle d'accompagnateur est un rôle, un super bon rôle d'apprentissage. C'est là où on apprend le plus. Moi, ma période en France, en fait, c'est une période de bien me calibrer, en fait, et comprendre certaines choses. Moi, je suis fier de cette période-là, parce que c'était une superbe école, quoi. J'arrive ici, sans papier, sans rien du tout, et je commence à jouer petit à petit, quand même, avec des artistes de très bonne renommée et des bons artistes, quoi. Donc, t'es obligé d'apprendre. Et moi, je dis en musique, moi, je suis un vrai élève de la musique. Et je me dis, dans la vie, j'ai envie d'être toujours cet élève. Parce que le plus j'en sais, moins j'en sais, en fait. Et j'ai jamais envie, à aucun moment, j'ai pas envie de me dire que je sais déjà le faire. C'est une erreur. Le moment où tu penses que tu sais déjà tout, eh ben, c'est là où t'es déjà sur la pente savonneuse.
De qui aviez-vous le plus appris quand vous étiez en France ?
Je ne suis pas resté avec les gens très longtemps, donc j'apprenais en fait petit à petit de tout le monde, avec mes amis avec lesquels je jouais. Parce que bon, je jouais avec Jacques Higelin, mais j'ai joué avec Jacques Higelin pas plus de 6 mois. Je jouais avec les Belmondo, les frères Belmondo, je jouais avec Francis Lassus à l'époque, je jouais avec Sylvain Luc, je jouais avec Louis Winsberg. En fait, mon petit entourage, en fait, les gens avec lesquels je jouais régulièrement. Je suis resté 4 ans en France. Et donc ça, c'était mon... Voilà, une école d'amis, quoi. Il n'y a pas mieux avec les amis. Hein. Et je suis content, beaucoup d'eux sont toujours mes amis. On joue toujours encore quand on peut.
Et puis, à la fin des années 90, vous faites le grand saut vers les États-Unis. Comment vous êtes-vous retrouvé là-bas ?
Je me retrouve là-bas, concours circonstances. Comment ça se passe ? Je suis en France et puis voilà, comme je reçois plus ou moins mon avis de non-renouvellement. Donc, on a toujours renouvelé ma carte de séjour. Et puis, cette année, comme par hasard, alors c'est l'année où je travaillais le plus, je suis en tournée, alors j'ai cartonné, quoi. J'étais riche comme Crésus. C'est l'année où j'ai tout cartonné. Et là, je reçois une lettre de la main d'œuvre ouvrière. À l'époque, ça s'appelait la main d'œuvre ouvrière. Ils disent, on a 1614 bassistes au chômage en Île-de-France. Donc, des musiciens qui s'inscrivaient donc à l'ANPE comme musiciens. Ce qui n'était pas vrai, parce qu'il n'y a pas 1614 bassistes à l'époque à Paris. Qui joue comme moi ? Non. Donc, plus ou moins, voici la raison pour laquelle on ne pourrait pas renouveler donc, votre carte. Bon, moi, je suis un gitan, moi. Ok, bah, on ne renouvelle pas mon titre de séjour. Bah, j'ai qu'une autre option. Bah, je me casse. Et donc, je dis à ma sœur, bah, tiens, j'avais deux options. En Angleterre ou je vais aux États-Unis. Je dis, je commence par les États-Unis. Donne-moi 2 semaines. Je reviens dans 2 semaines. Je dis, j'avais le temps, quoi. J'avais encore, c'était les 3 derniers mois de la validité de mon titre de séjour. Donc, j'arrive aux États-Unis, à New York, un 17 juin 1995. J'avais 420 dollars dans la poche, en tout, pour mettre 2 semaines d'escapade. Je vais dire, 3 jours après, j'ai dit à ma sœur, je reviens plus en France. Tu peux vider mon appartement. Et voilà, je suis arrivé à New York et puis j'ai tellement... c'est exactement en fait ce que je recherchais.
Vous nagiez comme un poisson dans l'eau aux États-Unis.
Ah ben, je me suis retrouvé dans l'environnement dont j'ai rêvé en fait, plus ou moins.
C'est
j'ai
pas oppressant les États-Unis ou intimidant?
Non. Il y a un côté en Europe, ici les gens sont beaucoup plus penseurs. J'ai du mal avec cette méthode. Ce qui est bien à New York, j'arrive, t'as un projet, j'appelle Joe Farmer, j'appelle dans l'après-midi, on a déjà le squelette en fait, ça peut être bien ou pas, mais t'as déjà l'idée en fait du projet, s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Ici, quand t'appelles les gens pour faire un projet, alors on rentre dans le... Déjà, dans la pensée, dans l'imagination, dans le truc. Et moi, là, moi, ça me fatigue souvent très vite.
En Europe, déjà, on prend le temps d'aller déjeuner ensemble pour c'est parler ça. Du projet.
Exactement. Moi, j'arrive, on joue le projet, on l'entend déjà, on voit si ça marche ou pas déjà. À New York, il y a ce côté que t'en parles, on parle plus. Let's just do it.
Grâce à cette plongée dans l'industrie du disque Made in USA, vous avez rencontré de nombreuses personnalités, dont le saxophoniste Michael Brecker ou le batteur Omar Hakim, qui joueront sur votre premier album Scenes from My Life, dont voici un extrait.
Je sais son nom, dinonge ni konda, mais na mwe wune mounye.
Ah, ditinye.
E banja di menya na bolo.
Ah, ditinye. Alalenu mounande dinonge konda.
Je sais son nom, dinonge ni konda.
Alalenu mounande dinonge konda.
Je sais son nom, dinonge ni konda, mais na mwe wune mounye.
Ah, ditinie,
ebanja di menya na wolo.
Ah, ditinie,
ebanja di menya na wolo.
Ah, ditinie. Abona benda yo yo bo kwa la muna oye. Ibi bonange ya monye nye ko inye. Abona penda tele mundumbu kwa la muna unye. Ibi bonange ya monye nye ko inye. Mutaka munye biso mabongo inye. Mulata kunde mumende sunga biso inye. Kiyele ungata ditande bongo muna wo. De wenge a masabola visonge ya la tombe na muna nyangwa mo.
Abona penda ginyo kiyo wo.
Yene mbala no na mandiko.
Tipipo nange ya monye.
Yene mbala do manakanya mo.
Abona penda tele mundu mbo.
Mbala no na mandiko.
Tipipo nange ya monye.
Une rencontre au sommet, Richard Bonnat, Michael Brecker, sur votre premier album. Et déjà, vous étiez très revendicatif, puisque le titre de cette chanson évoque le trône sur lequel siègent les dignitaires africains, c'est bien cela ?
Ouais, c'est ça.
Nous n'allons pas ici nous attarder sur des considérations politiques puisque cette émission n'est pas une tribune. Mais je sais votre frustration et combien vos choix artistiques et personnels parlent pour vous. Nous allons donc continuer à tourner les pages de votre grand livre et nous intéresser à une rencontre qui fut explosive. Je parle de votre complicité avec Mike Stern. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est ce monsieur ?
Mike Stern, c'est le guitariste de Miles Davis. Très belle époque de Miles Davis. C'est un excellent guitariste. C'est aussi la première personne qui m'a interpellé à Eilat, en Israël, à la frontière jordanienne et israélienne. Je jouais avec Eric Lelan. On jammait à la piscine. On est jeune, on jamme toute la journée. Je faisais que ça. Et Stern est venu me voir et m'a dit « Man, toi, tu devrais venir à New York, man. » C'est la première personne qui me l'a dit. Et une autre fois, Mike Breaker me l'a dit aussi. Il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais à Paris ?» Bah, je dis « Moi, je suis bien à Paris, ça va. Non, les États-Unis, je ne connais pas. On voit ça au film, là. Tout ce qu'on voit dans les films, ça ne me pousse pas d'aller aux États-Unis, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu dangereux là-bas et tout. » Et finalement, quand j'emboîte donc mon petit pas là, pour aller aux États-Unis, mais finalement, j'ai découvert en fait autre chose. Et dès que ces gens ont su que j'étais à New York, en 2 semaines, j'étais déjà le directeur musical d'Harry Belafonte.
Incroyable.
À cette époque-là, c'est une grande star, quoi. Et j'aime cet engagement, quoi, aux États-Unis où Lagnac, quoi, tu vois.
Ah, ils ont un investissement dans ce qu'ils font.
Incroyable, c'est juste let's go do it and we do it. On va, on fait. Donc la rencontre avec Mike, on s'appelle régulièrement. Hein. Même quand il me casse les pieds, la dernière fois, il m'appelle à 4h du matin. Quand il ne dort pas, il m'appelle. Alors, mon téléphone sonne à 4h du matin. Il est 4h15 du matin. Qui, je vois le truc. Ça sonne. Je vais au salon. Je regarde le téléphone. Je vois Mike Stern. Pour moi, je me dis, 4h du matin, je prends le téléphone. I'm like, are you all right? Yeah, man. I'm like, what's going on? He's nothing. I'm just calling.
Alors, je traduis, il m'appelle, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça va, Mike Stern ? Il fait, ouais, ça va très bien. Et pourquoi tu m'appelles ? Bah, comme ça, j'avais envie de t'appeler.
Je lui dis, non, pas 4 heures du matin, s'il te plaît. Nah, but it's all good, you know, it's been good. Dommage, le Covid est arrivé et tout ça. Donc, maintenant, je suis à Miami, maintenant, depuis l'arrivée...
Depuis l'arrivée de la pandémie.
De la pandémie, on va dire.
Vous l'avez dit, Mike Stern, c'est l'ancien guitariste de Miles Davis à la grande époque, celle de Marcus Miller, Al Foster, et quelques autres. Alors, vous n'avez pas joué avec lui, mais vous avez joué avec beaucoup de ses musiciens, de ses partenaires. Et le fruit de votre association, par exemple, avec Mike Stern, ça donnait ça. We'll be right back. One World, Richard Bonnat et Mike Stern sur l'album Voices en 2001. Quels sont les artistes avec lesquels vous avez ressenti le plus de complicité au fil des années?
Ah bah lui déjà, Mike, Joe Zawinul, Pat Metheny. J'ai officié aussi chez Pat Metheny pendant quoi, 2 ans. Hein.
Grand guitariste.
Excellent. Et surtout, on apprend des choses différentes. Tu prends 3 guitaristes comme Mike Stern, Pat Metheny et George Benson. Pour lesquels j'ai enregistré. Tu prends une expérience de studio, ils ont 3 approches différentes. Mike est plus bordélique en studio, ouais, il est déjà passé de ce morceau, il est déjà dans le morceau d'après, il est déjà machin, truc et tout. Mais le jeu est tellement là, Pat est plus ordonné en studio, donc aux petits détails et toutes ces choses, l'information est rentre.
Et George Benson, c'est quel genre?
Et George Benson, c'est plus... Moi, j'ai connu George Benson vers 70 ans à peu près déjà. Donc, il est plus relax, bien et tout, quoi. Tu vois, c'est le papa et tout. Il arrive en studio, tranquille. Lui, il est plus relax. C'est one take.
En une prise.
Une prise, lui. Il fait une prise, mais il se prépare pour la prise. Il me dit, OK, j'ai la prise. La prise, c'est maintenant et pas après. Parce qu'après, il faut que je boive mon petit scotch là et tout. C'est des approches différentes, mais l'efficacité est là. Voilà.
Je signale que vous êtes actuellement en tournée en Europe. On vous verra bientôt en Suède, en Norvège, en Allemagne, à Malte, en Autriche, au Luxembourg, en Hongrie et en France. Toutes les dates sont sur votre site, richa-bona.com. Est-ce qu'une apparition de l'illustre Oumou Sangaré est prévue durant cette tournée estivale?
Non, pas sur cette tournée, mais on commence à en parler. Pourquoi pas en 2023? Tenter de faire quelque chose peut-être l'automne 2023. Pour ça, il faudrait qu'on fasse peut-être un autre morceau d'abord pour bien asseoir la chose et le temps nous dira.
Nous, on aimerait bien un album entier. Oumou Sangaré, Richard Bonnat. Très honnêtement.
Bah ouais, pourquoi pas. Et non, laissons faire des choses et laissons le temps décider de ce qu'on doit faire.
Quoi qu'il en soit, votre duo sur Duru Wakani va faire des étincelles. Merci beaucoup, Richard Bonnat.
Merci énormément de m'avoir ici, Joe. Et je sais que ta millième arrive bientôt. Je vais te mettre un peu
prochaine.
De pression. Ouais, mais ben, l'année prochaine, c'est pas non plus dans 40 ans. Alors, la millième arrive bientôt. Je veux qu'on fasse une grosse fête pour la millième. Tu le mérites. Let's go, baby.
Nassam Dita. La semaine prochaine, nous accueillerons la jeune et talentueuse chanteuse sud-africaine Pilani Boubou, dont le dernier album, Folklore, nous a fort séduit. Vous devriez vous y intéresser, Richard Bonnat. Retenez son nom, Pilani Boubou.
Pilani Boubou.
Vous parlez Zoulou, vous parlez Xhosa,
vous parlez... Mali.
Ah.
Je suis un Zoulou, attention. Mais
oui. Pour la suite des festivités, rendez-vous cet été dans l'épopée. Cette émission familiale était réalisée par la rigoureuse Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.